Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Asseoir en face d'elle, toujours à la même place que la dernière fois. Elle s'assoit. La femme lui demande :
Vous avez du nouveau ?
Amélie lui dit :
Non, mais je pense constamment à ce que vous m'avez dit et je fais des rêves horribles.
La voyante lui dit :
Moi, j'ai du nouveau. Je sais qu'il va se rapprocher. Il se rapproche beaucoup même. Il est comme un corset.
Amélie panique et lui dit :
Qui est-ce ? Il veut m'attaquer ? Il veut m'attaquer ? Comment ?
La femme lui dit :
Je ne peux pas vous le dire, vous savez bien. Tenez-moi votre main.
Amélie lui tend et lui pose sur la table à plat et la regarde avec la loupe. Elle lui dit :
Je vois, c'est inévitable.
Amélie lui dit :
Et quoi ?
Elle lui dit :
Tout ce qui va arriver.
Amélie panique, lui dit :
Oh, dites-moi tout. Je vous en prie.
La femme lui dit :
Non, je ne peux pas.
La pénombre a envahi la place. Il n'y a que le visage de cette femme que l'on voit. Un visage dur de statue. Amélie se sent prise, envahie par ce visage. Elle a peur.
La femme lui dit : Reprenez votre main.
Elle la reprend. Elle lui dit :
Vous êtes une sainte femme à qui un grand malheur va arriver chez vous. Croyez-vous en Dieu ?
Amélie lui répond :
Maintenant oui.
Elle lui dit :
Eh bien, priez.
Elle se lève, Amélie aussi, tremblante.
La femme la guide dans cette pénombre jusqu'à la porte. Elle ouvre, elle lui dit :
Vous revenez, n'est-ce pas ? Vous reviendrez ? Oui.
prier.
Oui.
Elle se retrouve dans le salon d'attente, éclairé par une lampe au plafond. Une simple lampe au plafond. Le décor est sale, la lumière jaune. La lumière est jaune et montre un décor sale. La fille avec sa casserole. Amélie y dépose son bracelet en or. Elle ne dit même pas merci et la raccompagne. Amélie sent qu'elle reviendra. Les jours passent et ne dit rien de tout ça à Auguste. Il ne parle pas de ses visites, car il se met très très en colère, surtout pour les bagues qui disparaissent à chaque fois. Et il lui dirait qu'elle est folle, folle alliée. Elle aussi se croit folle. Mais elle veut tout savoir. Malheureusement, lorsqu'elle voit la voyante, elle ne lui dit rien. Elle lui dit d'attendre, en faisant sentir que bientôt, elle sera de quelque chose de terrible. Elle le dit comme une carotte. Et à chaque fois, il y a un bijou dans la casserole. Malheureusement, ce que donne Amélie n'améliore pas le quotidien des deux femmes. La fille garde tout dans sa chambre qui est au dernier étage. Lorsque sa mère n'a pas de client, elle la gifle, lui dit qu'elle n'est plus bonne à rien et ne lui donnera rien à manger. Pour Jean, c'est la même chose. Les deux femmes pleurent leur misère. Un soir, la voyante dit à Jean, il faut trouver de l'argent. Il faut me l'apporter. Autrement, nous allons mourir de faim. Jean lui dit, je n'ai rien à moi. C'est mon frère qui gère tout. Les jours passent. Frédéric va toujours avec Gilles après le lycée. Ils sortent ensemble. Gilles aime faire des farces. Un soir, en passant dans une rue du 16e, ils voient qu'il y a une soirée dans un hôtel particulier. L'hôtel est du 19e, bien conservé.
avec un muret et une entrée dans la cour privée. Au fond se trouve l'hôtel. Il y a plein de voitures garées, tout est illuminé, la musique. Gilles dit à Frédéric, on s'invite ? Frédéric lui dit, on ne les connaît pas. Qu'est-ce que ça peut faire ? Tu sais, s'ils savaient qui tu es, ils accepteraient de te recevoir et en seraient très flattés. Frédéric lui dit, bien nous y allons et nous verrons. Et ils entrent dans la maison avec un groupe de gens. Un maître d'hôtel est à l'entrée. Il leur demande, vous avez votre carton d'invitation, messieurs ? J'ai lui dit, nous l'avons oublié, mais nous sommes invités, famille Borch. Nous étions avec ces gens qui viennent d'entrer. Le maître d'hôtel leur dit, je suis navré, mais je ne peux vous faire entrer. Et puis, vous n'avez pas d'habits. J'ai lui dit, mais nous sommes habillés, nous ne sommes pas nus. Arrive vers eux un jeune homme grand, mince, habillé en smoking noir. Il a un très joli visage, tête ronde, cheveux châtains coupés très courts, yeux bleus profonds. Se dégage en lui un côté très distingué. Va vers eux les mains dans les poches et demande « Que se passe-t-il, Martin ?» Le domestique lui dit « Bien, monsieur !» C'est que ces messieurs désirent rentrer et qui n'ont pas d'invitation et sont habillés comme ça. Le jeune homme leur demande, qui êtes-vous ? S'il lui dit, nous sommes de la famille Borch. Le jeune homme leur dit, enchanté, moi je suis Charles. Frédéric lui dit, moi Frédéric. Gilles lui dit, moi Gilles. Charles dit au maître d'hôtel, voilà, nous avons fait connaissance. Laissez-les entrer. Bien, monsieur. Et Charles prend à la taille les deux amis et leur dit, venez, entrons. Qui que vous soyez, ça n'a pas d'importance. Les autres invités, je ne les connais pas mieux. Les connaissances de mon père m'ennuient affreusement. Et les mène en plein milieu de la fête. C'est comme pour tous ces gens, ce genre de fête. Les pièces sont en enfilade, où les gens peuvent se mouvoir pour danser, parler, manger, boire, marcher en discutant. Il leur dit, voilà la chose. Gilles lui dit, c'est très bien. Charles leur dit, allons boire quelque chose. Et les mène au buffet. Arrivés au buffet, ils prennent une coupe de champagne. Charles leur dit, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Frédéric lui dit, bon anniversaire.
Merci.
Gilles lui demande, vous avez quel âge ? Charles lui répond,
22 ans. Mais c'est mon anniversaire sans vraiment l'être. À vous, je peux vous dire. Parce que vous êtes de drôles d'invités.
Frédéric lui demande, comment cela ?
Je sais très bien, c'est que vous n'avez pas été invité. Vous êtes venu comme ça. Vous avez peut-être faim.
J'ai lui dit, non. Mais nous aimons entrer chez les gens comme ça. Nous sommes, disons, au-dessus des autres et du monde. La société, ce n'est pas pour nous. Les lois, la morale non plus. Toutes ces choses sont pour les gens normaux. Nous, nous sommes des surhommes.
Charles lui demande, qu'est-ce que des surhommes ?
J'ai lui dit, des gens qui sont au-dessus des autres par leur intelligence, leur capacité. Ils ont un moi plus fort que les autres et n'ont pas besoin des autres. Les hommes ont besoin de chefs pour les guider. Nous, nous sommes nous. Propre chef. Nous sommes contre la morale et la bonté. La bonté empêche l'homme d'aller de l'avant. Elle le freine. Et
les gens faibles, qui à force deviennent de plus en plus nombreux, se font aider et étouffent les forts. Nous ne sommes pas des faibles, nous sommes des forts, nous sommes contre l'humanitaire. Charles lui dit, j'ai bien raison, la charité peut faire plus de mal que le mal lui-même. Pour être un homme fort, il faut passer outre la pitié, la bonté. L'homme doit pouvoir s'envoler et être libre de toute contrainte. Et pour cela, il ne lui faut pas de la bonté, de la pitié. Un seul but pour l'homme, aller de l'avant. Et ceci pour le bien de l'humanité. À quoi cela vaut-il qu'il y ait des gens de plus en plus nombreux, une foule énorme qui se contente de tendre la main pour avoir sous prétexte qu'elle est pauvre, pour avoir des choses, sous prétexte qu'elle est pauvre, elle se contente de tendre la main, et une infime partie des hommes qui triment, travaillent comme des esclaves pour ce genre-là, alors qu'il pourrait aller de l'avant et faire des choses formidables. Mais ils ne le peuvent pas, parce qu'ils sont enchaînés à cette foule qui tend la main. Ces chaînes s'appellent bonté et pitié. Je lui dis, mais vous êtes un des nôtres. Charles lui dit, je ne le savais pas jusqu'à ce soir. Frédéric lui fait, comment? Charles lui dit, regardez ces gens, comme ils ont l'air bêtes de se pavaner comme des paons. Ils s'imaginent avoir la fortune, être des gens importants. Mais ce ne sont que des paravents, des pantins, des gens sans importance, prisonniers de leur carcan, leur morale, leur famille. J'ai lui dit, oui, ils ne sont rien, parce qu'ils sont incapables de sortir de leur carcan. Ils sont incapables, c'est de tout quitter, de tuer ou se tuer, de mettre le feu à leurs biens, de tuer leur famille. Non, ils sont capables, parce que prisonniers dans la société, ils sont trop civilisés. L'homme n'est plus libre, il est prisonnier. L'homme était Dieu, plutôt a créé Dieu. Et Dieu s'est vengé en lui coupant les ailes. Il faut que l'homme redevienne Dieu et soit libre. Frédéric dit à Charles, c'est en voyant cette foule que vous êtes rendu compte que vous étiez des nôtres. Charles dit, non, j'ai découvert un secret qui m'a ouvert les yeux et m'a montré que la bonté était une chose horrible. Je lui demande, et quel est ce secret? Une jeune fille, grande, mince, blonde, cheveux mi-longs, le visage très doux, fin, beau, habillé d'une robe blanche toute simple, mais qui a du coup coûté très cher. La simplicité peut coûter très cher. La jeune fille va vers Charles et lui demande, tu m'invites à danser, Charles? Charles lui dit, Nathalie, je te présente deux amis, Frédéric et Gilles. Elle en fait, bonsoir. Charles lui dit, j'ai pas très envie de danser. Elle lui dit tristement, c'est pour toi que je suis venue avec mon père. Je risque de ne plus te voir de quelque temps. Les temps sont durs et père a été obligé c'est d'aller à Lyon pour parler humanitaire au maire. La ville est dans un état déplorable avec toutes ces guerres entre gauchistes et je suis obligé de l'accompagner. Alors,
pour notre dernière soirée. Il lui dit,
tu as raison, notre dernière soirée.
Il dit aux autres gens,
je m'excuse. Nous reverrons peut-être plus tard. Nous vous reparlerons de ça. Mais je dois aller avec cette charmante jeune femme.
Et il s'éloigne. Les deux garçons les voient tous les deux aller danser. Frédéric lui dit,
il n'est peut-être pas des nôtres.
J'y lui dis,
la pitié l'a forcé à aller avec la fille, malgré qu'il n'en avait pas du tout envie.
La pitié et la politesse.
La bonté nous force toujours à faire ce que nous ne voulons pas faire.
Frédéric lui dit, surtout dans ce genre de sociabilité, il termine leur verre, regarde les gens et s'amuse de voir qu'ils font semblant d'être heureux et de s'amuser. Pour la plupart, ils s'amusent, ou plutôt s'ennuient, aimeraient être avec d'autres personnes. Après avoir bien regardé, Frédéric dit,
nous en allons,
je lui dis. Allons voir à l'étage et se faufile pour monter aux escaliers. Là, à l'étage, il n'y a pas de lumière. Tout est calme. La soirée est assourdi. Il longe un long couloir sombre. Gilles ouvre des portes. Salle de bain. Chambre. Il entre dans une chambre. Elle est meublée Louis XV. Il n'éclaire pas et la lumière de la ville est clairassée. Gilles va vers la table de nuit. Ouvre le tiroir. Et elle sort une montre de femme et des pilules. Il prend tout ça et il met dans sa poche. Ouvre l'armoire. Il y a des robes, tailleurs, manteaux. Gilles prend son couteau et coupe tout ça, ses robes et tout. Ce qui fait rire Frédéric. Il dit la tête qu'elle va faire lorsqu'elle va voir ça. Il va à sa coiffeuse. Prend une bouteille de parfum et la renverse sur le tapis. Il dit un parfum à 10 000 de perdu et un tapis à 100 000. Gilles ouvre les portes de l'armoire et voit que c'est des sous-vêtements. Il prend une petite culotte et dit « Vois ça, regarde-moi ça, comme c'est coquin. Je suis sûr que c'est une vieille qui joue la femme fatale avec ses gigolos. » Il balance le slip sur le lustre et dit « La vérité en pleine lumière !» Puis, il sort de la chambre. Gilles dit « Ça manque !»
de ce qui lui manque et de ce qu'elle cherche. Nous sommes ce qu'elle désire le plus. Allez. Jules a ouvert une porte. En bas, la fête continue. C'est un salon à l'anglaise avec tout un pan de mur rempli de livres. Il y a dans un coin des fauteuils en cuir, des tables basses, un bar roulant, ça sent la cigarette et l'alcool. Frédéric lui dit, rien de bien intéressant. Je lui dis, oui, mais j'aimerais savoir ce qu'ils lisent. Il va à la bibliothèque. Prends un livre au hasard. C'est un livre à couverture rouge. La Divine Comédie, il dit à Frédéric. Ça fait bien d'avoir ce genre de livre chez soi. Il prend un autre livre. Et lit sur la couverture en toile noire. Le papier est jauni. J'y lis le titre, L'au-delà du commun, de Jean-Pierre Jugnet. Ça, c'est mieux. Mais sûrement pas lu. Première édition. Je crois qu'il y en a eu 3. Et que l'on prépare en ce moment une autre. Mais modernisée avec plus d'aventure. L'aventure plus longue. Et plus cruelle. J'ai entendu à la radio qui vont en faire une adaptation dès que ce sera fini d'être écrit. Dans la série L'écran radiophonique. J'ai beaucoup aimé la première version. J'ai hâte de connaître la dernière. Voilà, un livre pour moi. Il garde le livre. Allez, je le garde. De toute façon, il n'est pas pour eux. Il met le livre dans sa poche. En prend un autre. Il semble aussi vieux que l'autre. L'ouvre et lit Le lac de Montrion. Voilà aussi un livre très beau. Qui est la substance de tout. Et de toutes les origines. De Jean-Pierre Jugnet. Je le prends aussi. Et le met dans sa poche. Frédéric lui dit. Et si tu te fais prendre, je lui dis, je dirais que je suis amoureux des livres. On pardonne toujours à un amoureux des livres. Frédéric lui dit, et dis bijoux, je lui dis, là on ne pardonne jamais à un amoureux des bijoux. Ça n'est pas intellectuel, mais on peut se faire passer pour kleptomane. Et ils vont vers la sortie de la pièce. Ils entendent des pas. La porte qui s'ouvre. Vite, ils se cachent derrière les fauteuils. Le bureau s'éclaire. Ils voient Charles et Nathalie. Ils sont entrés. Ferme la porte. Vite, ils se cachent derrière les fauteuils. Le bureau s'éclaire. Ils voient Charles et Nathalie. Ils sont entrés. Ferme la porte. Venez vous asseoir, Nathalie. Il montre un fauteuil. Va s'y asseoir. lui s'assoit, celui qui est en face d'elle, et lui demande « Pourquoi m'avez-vous fait venir ici, Charles ?» Elle se dit « Il va me demander en mariage. » Charles lui dit « Voilà, Nathalie, ce que j'ai à vous dire est très pénible pour moi, mais je crois qu'il vaut mieux que vous sachiez. Nous deux, c'est impossible. » « Mais pourquoi, Charles ?»« Parce que j'ai appris une chose qui m'empêche de vous fréquenter, et ce ne serait pas honnête. » Elle pâlit. « C'est une fille que vous aimez ?» Il lui dit « Non, c'est plus terrible. »« Alors, qu'est-ce que c'est ?» Il lui dit « Je ne suis pas digne de vous. Je suis digne d'aucune fille. » Elle lui demande « Pourquoi ?» Il lui dit « Je ne suis pas ce que vous croyez que je suis. » Elle lui fait « Je me moque que vous soyez autre. Je vous aime. » Il lui dit « Vous m'aimez, mais vous ne pourrez jamais être à moi. Pourquoi ? Parce que c'est impossible. Je ne suis rien. » Elle lui dit « Je me moque que vous n'ayez pas de situation. » Il lui dit, ce n'est pas de cela. Ça n'aurait aucune importance si c'était ça. Ma famille est suffisamment riche pour nous faire vivre. Ma famille, je parle comme ça. Elle lui demande, alors quoi ? Il lui dit, je ne suis pas ce que vous croyez. Elle lui dit, parlez franchement. Et que nous en finissions avec ce mystère. Il lui dit, je ne suis pas le fils de la maison. Et le regarde bien, il continue. Je suis un enfant trouvé, ou plutôt abandonné. Et cette famille m'a élevé et adopté. Elle lui dit, qui vous dit ça? Il lui répond, personne. J'ai trouvé un papier dans le bureau de mon père. Il traînait au fond d'un tiroir un vieux papier jauni. Elle réfléchit et lui dit, mais qu'est-ce que ça peut faire? Du moment qu'ils vous ont adopté, c'est vos parents maintenant. Il lui dit, non, parce que j'ai compris qu'ils m'ont adopté, que ce n'était pas par amour, mais par pitié. Et orgueil, faire du bien, c'est se faire du bien aussi. Elle lui dit, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Il lui dit, si, ça m'humilie, parce que j'ai été aimé pour ce que je représente, et non pour ce que je suis. Je les déteste, et je ne veux plus avoir de rapport avec eux. Elle lui dit, mais c'est ridicule ce que vous dites. Il vous aime, non? Il lui dit, lorsqu'on fait un acte humain, un acte de charité, on fait pour bien se faire voir par la société. Elle lui dit, et même si c'est ça, qu'est-ce que ça change pour nous? Il lui dit, tout, parce que je ne peux aimer une personne qui saurait qui je suis. Je me dirais, elle m'aime pour ce que je représente. Elle lui dit, je vous jure que non. Je vous aime parce que c'est vous. Je me fiche ce que vous pensez de votre famille. Je vous aime et c'est tout. Il lui dit, mais vous aurez beau faire, vous savez d'où je viens et vous pourrez qui penser. Et moi, en vous voyant, je saurai que vous le savez. Non, il vaut mieux pas. Elle lui dit, c'est par égoïsme que vous faites ça. Vous, vous voyez plus haut que les autres et dénigrez les autres. Même ceux qui vous aime, parce que vous pensez qu'il vous aime pas, comme il le faudrait. Retrouvez les pieds sur terre et redevenez simple, aimez simplement les gens qui vous aiment, vraiment, et sans les dénigrer. Il lui dit tristement, « Vous voyez que vous ne m'aimez pas. Vous aussi, vous dites que vous me jugez égoïste, orgueilleux. » Elle a les larmes aux yeux et lui dit, « Je vois certainement une chose, c'est que vous êtes malade, que vous devez vous soignez, vous avez l'âme malade. Je vous aime tout simplement. Je me moque de ce que vous êtes et vos soi-disant origines. » Elle se lève, voit qu'elle n'a rien à faire, qu'il est obsédé par ses idées, et lui dit, « Je vais vous laisser. » Et elle s'en va tristement en se disant, qui cherchera. Mais non, il ne cherche même pas à la retenir. Elle ferme la porte. Il reste seul. Il se dit, me voilà seul, je déteste mes parents nourriciers, et par leur faute, je suis seul et malheureux. Et il sort de la pièce en courant. J'ai dit à Frédéric, connaissant les origines de son surhomme, il déteste ce qu'il est. Et ils sortent de la pièce. Et ils vont vers la soirée. Il voit Charles seul qui boit tristement une coupe de champagne. Lorsqu'il les voit, il leur fait signe. Ils vont vers lui. Il leur dit, j'ai décidé une chose, c'est de quitter ces gens. Frédéric lui demande, et où irez-vous? Charles lui dit, je ne sais pas. Et vous, comment vivez-vous? Gilles lui dit, je vis seul. Charles lui dit, eh bien, je vivrai avec vous. Entre gens du même monde, l'on peut s'entraider. Je lui dis, ce sera pas si simple. Je m'en moque. Et si je partais maintenant? Je lui dis, faudra peut-être s'y prévenir et puis préparer votre départ. Non, plutôt demain matin. Charles lui dit, bien, je veux bien. Venez me chercher à 10h, ici. Bien. Charles dit, bien, ça me permettra de dire adieu à tout ça. J'ai déjà dit adieu à Nathalie. Allez, à demain. Et les deux garçons s'éloignent. Frédéric demande, tu crois qu'il va quitter tout ça? Je lui dis, je ne sais pas. C'est pour ça que je lui ai donné un peu de délai, pour qu'il réfléchisse bien. Et il s'en retourne. Charles broie du noir. Il voit de loin arriver son père. l'air heureux, satisfait de ce qu'il est, de ce qu'il a fait. C'est un homme grand, fort, cheveux grisonnants, habillé d'un smoking noir. Mais vers son fils. Alors, mon fils, on s'amuse ? Charles le regarde avec dédain et lui dit : Je ne suis pas votre fils, et vous n'avez pas à vouloir que je sois heureux. Le père ne comprend rien et lui demande : Que se passe-t-il ? Tu as des ennuis ? Charles lui dit : Oui. Vous me prenez pour mon père. Le père furieux lui dit : Je t'ai rien fait. Qu'est-ce que cette colère contre moi ? Charles lui dit : Vous me dégoûtez. Le père furieux lui dit : Je te dégoûte ? Je te dégoûte ? C'est bien de dire ces choses comme ça, devant tout le monde, lorsqu'on a tout. On a tout. Qui te nourrit ? Qui te donne des vêtements ? Te loge ? Moi, qui te dégoûte ? Moi, ton père ? Charles lui dit : Vous n'êtes pas mon père. Le père furieux lui dit : Quoi ? Comment ? Tu renies ton père ? Charles lui dit : Je ne renie personne parce que vous n'êtes rien. Le père furieux lui dit : Tu devrais avoir honte de dire ça. Non, vous m'êtes en rien. Et que t'ai-je fait pour que tu me traites de cette façon ? Charles lui dit : Parce que vous m'avez adopté pour être un homme respectable, un brave homme. Et comment ? Eh bien, en m'adoptant. Le père parler lui dit : Qui t'a dit ça ? Je l'ai trouvé par moi-même. Et je te déteste. Tu n'es pas mon père. Le père lui dit : Je comprends ce que tu ressens, mon petit. Allons au salon pour parler. Charles lui dit : J'ai rien à vous dire. Le père lui dit : Mais moi, oui, je t'aime. Charles hausse ses épaules et lui dit : Vous avez surtout peur du scandale. Et il s'éloigne. Le père lui demande : Où vas-tu ? Charles lui dit : Je suis dans ma chambre, me coucher. Demain, je vous quitte. Et s'éloigne. Le père est effondré. Charles va à sa chambre et monte à l'étage. Il entre dans sa chambre. Éclair. C'est une chambre meublée avec de beaux meubles, meubles Louis XIV. Cette chambre est trop belle pour un jeune homme. Les jeunes gens n'aiment pas le beau et n'y connaissent rien. Ils aiment mieux les chambres dégueulasses, pleines d'affiches sur les murs, affiches de gens laids et provocateurs anti-tout. Les chambres... La chambre, plus elle a du fouillis, plus les jeunes aiment ça, plus ça fait personnel. En réalité, ça fait banal parce que tous les jeunes ont le même genre de bordel. Ils disent tous à leur mère : C'est ma chambre, je ne veux pas que tu y rentres, j'ai des choses à moi, là. En réalité, ils ont honte que leur mère, en faisant le ménage, trouve des choses qui démontrent qu'ils se branlent fort en regardant des photos ou en se regardant se branler dans la glace de l'armoire qui se trouve en face du lit. Mais la chambre de ce pauvre Charles est une chambre qui a du goût et propre. Et c'est ce qu'il déteste, parce qu'il a l'impression qu'elle n'est pas à lui. Les jeunes aiment avoir une tanière qui pue le fauve et soit dégueulasse pour qu'il soit bien. Il se dit : Je vais m'en aller et quitter tout ça. Il n'y a rien de moi là. C'est à eux. Ils ont pris un fils. Alors ils mangent. Ils veulent un fils à leur image. Mais je ne le veux pas. frappe à la porte. Il se dit, merde, ce doit être mon père qui doit revenir à la charge. Il dit nerveusement, qui est-ce?
C'est moi, ta mère.
Il se dit, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là?
Elle lui dit, vois-moi mon chéri.
Il se dit, si je ne lui ouvre pas, elle va rester toute la nuit derrière la porte. Il lui dit, bon, je t'ouvre. Et il ouvre. Et lui demande, qu'est-ce que tu veux?
Elle lui dit, je veux nous te parler.
Il lui dit, c'est pourquoi?
Elle lui demande,
c'est au sujet.
Mais j'aimerais savoir si tu vas bien.
Oui. Je t'écoute.
Elle lui dit, ton père m'a parlé de votre dispute.
Il lui dit, ce n'est pas une dispute, c'est la vérité.
Elle lui dit, quoi? Quelle vérité?
Il lui dit, tu sais bien, je ne veux plus être le porte-drapeau de votre bonté.
Elle lui dit, je ne comprends rien à ce que tu dis. Si nous habitions Lyon, je croirais que tu es devenu un art.
Il lui dit, je m'en fous. Ne t'en fais pas. Je ne suis pas un de ces cons. Elle lui demande, alors? Il lui dit, rien. Je vous quitte et voilà.
Elle lui dit, vous nous quittez comme ça, pour rien.
Elle a le corps gros, parce qu'elle aime vraiment ce petit grand con. Il lui dit, ce n'est pas pour rien. Je te quitte parce que tu n'es pas ma mère. Elle a les larmes aux yeux. Elle s'assoit sur le rebord du lit et lui dit,
qui t'a dit ça?
Il lui dit, je l'ai appris tout seul. Elle lui dit,
tu as mal appris, parce que pour moi, tu es mon fils, que j'aime, et ton père aussi t'aime.
Charles Furieux lui dit, vous m'aimez, vous? Vous m'aimez? Quelle foutaise! Vous voulez que l'on pense que vous m'aimez?
Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.